Très bien.
Il va avoir un réveil pénible. Je voulais être diplomate à cause de vous tous, éviter que je s'en coule, mais maintenant c'est fini.
Au lendemain des émeutes, et après la dissolution des ligues fascistes, je conservais de fidèles adversaires à gauche, et je n'avais désormais que des ennemis à droite. Les cheminées des aciéries s'éteignent, et c'est grave pour un pays quand le ciel redevient clair au-dessus des centres ouvriers. Or, il fallait choisir entre la protection du capital et celle du travail. Je vous reproche simplement de vous être fait élire sur une liste de gauche et de ne soutenir à l'Assemblée que des projets d'inspiration patronale.
Il y a des patrons de gauche, je tiens à vous l'apprendre.
Il y a aussi des poissons volants, mais qui ne constituent pas la majorité du genre.
Une grève surprise, bravo. Monsieur Gratfouillère, vous êtes un meneur et vos petits camarades des inconscients. Vous semblez oublier en effet, mes amis, que vous n'êtes que des salariés. C'est-à-dire les êtres les plus vulnérables du monde capitaliste. Des chômeurs en puissance.
L'ordre étant rétabli, je demandais les pleins pouvoirs et les obtenais. Mais sauf pour les dictateurs et les imbéciles, l'ordre n'est pas une fin en soi. L'ordre n'empêche pas le nombre des chômeurs d'augmenter, ni les faillites de se multiplier. Je suis anarchiste.
Nous allons repeindre l'Asie, lui donner une couleur tendre. Nous allons installer le printemps dans ce pays de merde.
Ah là là, dire qu'on finit tous de la même manière. Trouvez pas ça humiliant?
Oh là là, il y en a des choses affichées à la poubelle.
Voilà, 19h passé de 2 minutes à la pendule très exacte de Radio Canu, la plus rebelle des radios. Il est l'heure du Canu Info, comme tous les jours de la semaine, 19h-20h, avec une équipe très très réduite cette semaine, puisque je suis tout seul. Oui, Delphine est en esclave, comme beaucoup nous sommes. Elle travaille ce soir, c'est ça l'esclavage moderne. Du coup, elle ne peut pas être là, mais elle sera de retour, bien évidemment. La semaine prochaine, nous parlerons de plein de choses ce soir quand même. Enfin, je parlerai, je dis nous, mais je suis finalement tout seul. Donc on commencera à parler un petit peu de la Grèce, on parlera un petit peu d'Israël-Palestine. On parlera, je tourne mes petites feuilles, on parlera aussi de peine de mort, parce que ça s'améliore quand même pas dans le monde. On parlera de François, dit le Hollande. On parlera des pollueurs avec leurs pesticides, avec les attaques contre le barrage de Sivens, avec des mises en place de milices d'extrême droite, on pourrait le dire, en tout cas de milices soutenues par la gendarmerie, et la FDSEA, hein, qui est le syndicat. On se posera des questions de quelle couleur est ce syndicat. Peut-être à l'extrême droite d'Hitler, hein. Non, on peut pas dire ça comme ça, bien évidemment. Mais en tout cas, un syndicat très à l'extrême droite. On parlera aussi de nucléaire, hein, et puis de gaz de schiste, de pollution, de voitures avec des nouvelles petites pastilles vertes qui vont clignoter dans la nuit. Et on va ouvrir donc ce Canu Info avec la Grèce, puisque le coup de semonce s'est tombé hier soir à 22h. C'est venu de cette belle ville de Francfort, puisque la Banque Centrale Européenne, on l'appelle la BCE, a mis la pression, on va dire, du chantage, je sais pas comment on pourrait trouver des mots, en tout cas très très agressif envers le gouvernement grec, en suspendant le régime de faveur qu'elle accordait jusqu'ici aux banques grecques. Alors ce régime de faveur, hein, ça signifiait que les banques grecques pouvaient emprunter de l'argent auprès de la BCE, bien évidemment, à des taux un peu particuliers, sans avoir les garanties, enfin des garanties inférieure à celle exigée normalement. Alors, bien évidemment, cette menace, hein, qui vient, et cette menace, c'est Mario Draghi, hein, le président de la BCE, qui n'est pas élu, mais qui s'estime au-dessus des citoyens grecs, puisqu'ils donnent des ordres quasiment aux élus grecs. C'est ça le néofascisme de l'économie mondiale, en tout cas de l'économie européenne, à travers les messages de Mario Draghi, hein, qui se met au-dessus des représentations des différents pays, au-dessus des élus. Même si on n'est pas des défenseurs de la démocratie représentative, c'est quand même très insultant de voir un simple économiste se mettre au-dessus de 2 millions de personnes, de la décision de 2 millions de personnes. Alors bien évidemment, les Grecs et les banques grecques, en tout cas, pourront continuer d'emprunter, mais à un taux plus élevé, comme c'était fait d'ailleurs avant. Mais grosso modo, le message est clair. Le gouvernement d'Alexis Tsipras devra se plier aux exigences de la BCE, c'est-à-dire de l'Allemagne, grand chef de l'Europe. C'est pareil, bizarrement, l'Allemagne, sa représentante, n'est pas élue par les Grecs, mais pourtant c'est elle qui veut imposer des choses à la Grèce. Alors, les infos divergent sur ce qui pourrait se passer dans l'avenir. Ce qu'on peut imaginer, en tout cas ce qu'on peut voir, c'est que là, à un moment, la Grèce peut se retrouver à court de liquidité. Ça devrait, s'il y avait des soucis financiers qui perduraient, ça arriverait a priori au mois de mars, fin mars. Grosso modo, pour les autres pays européens, l'idée, et c'est un peu l'urgence, hein, c'est de boucler le deuxième plan d'aide à la Grèce, un plan de 130 milliards d'euros qui avait été lancé en 2012 et qui se termine le 28 février de ce mois. Alors l'objectif de ce plan, hein, c'est d'imposer des réformes supplémentaires. Alors on notera quand même que dans toute cette crise, hein, la crise financière de 2008, elle est créée par les financiers, les économistes, les libéraux, les capitalistes. Elle finalement va leur servir de pouvoir pour imposer des réformes encore plus libérales, encore plus capitalistes aux autres pays, ce qui est le cas avec la Grèce. Alors certes, la Grèce était un pays qui était très très mal géré, que ça soit au niveau des impôts, il y a deux groupes là qui politiques qui se partagent le pouvoir de manière hégémonique, limite mafieuse, hein, en Grèce depuis quasiment la chute de la dictature. Donc ça, c'est une des raisons, mais l'autre raison, c'est quand même la crise financière de 2008, auquel les Grecs ne sont pas forcément responsables, hein, d'ailleurs. Et nous non plus. Enfin, ça dépend si vous dans quelle banque vous êtes, bien évidemment. Si vous êtes dans des banques qui ont participé, notamment à la traitisation, à tous ces montages financiers foireux, comme alors il y a le Crédit Agricole, il y en a plein qui ont participé. Là, vous êtes complices, hein, malheureusement. Vous étiez peut-être pas au courant, mais maintenant vous l'êtes, que vous avez participé à la création de cette crise de 2008. C'est quand même triste. En même temps, on le savait bien, quand on est dans une banque capitaliste, on n'a pas trop d'alternatives non plus que de soutenir le marché capitaliste. Alors, le gouvernement, alors c'est-à-dire Monsieur Tsipras et Varoufakis, hein, le ministre de l'économie, tourne un petit peu dans tous les pays européens. Ils étaient en France, il est à Rome, je crois que c'était avant-hier, le 3 février, à Londres, c'était lundi, pour essayer de discuter avec les différents gouvernements, pour essayer de voir ce qui est possible de faire. En tout cas, il a été déjà obligé de reculer pas mal, ce gouvernement grec, puisqu'il se rend bien compte que tout ce qu'il avait annoncé va être difficile à réaliser, mais pas complètement impossible quand même, malgré la pression, le pistolet qui a été mis sur la tempe du gouvernement fraîchement élu en Grèce. Syriza et son gouvernement a quand même une petite marge de manœuvre. Alors faut savoir qu'en plus, donc Syriza a été élu avec un très grand nombre de voix, mais il y a un dernier sondage qui est paru dimanche. En dehors de ceux qui ont voté pour Syriza et ceux qui n'ont pas voté pour Syriza, la question qui était posée aux Grecs, c'est: est-ce que vous soutenez Syriza, est-ce que vous pensez que Syriza peut faire changer les choses et va y arriver? Et c'est 70% des Grecs qui répondent oui. Donc, une grosse partie des gens qui n'ont pas voté pour Syriza le 25 janvier. Donc, quelques jours après, ils disent mais ils le soutiennent quand même. Voilà. Alors, après, le gouvernement grec peut mettre en place quand même des contre-mesures, certaines comme des mesures techniques, comme la fermeture mondiale. Alors, pour pas que ça s'affole, fermeture mondiale des banques, limiter les retraites particuliers. Ça concerne essentiellement les riches parce que les pauvres sont pas très concernés, hein. Donc, ça peut être des premiers éléments à mettre en place. Ensuite, ils peuvent décider de continuer de sortir, d'alimenter le pays en euros. Parce que même si on a une banque centrale, c'est quand même les banques de chaque pays, les banques centrales de chaque pays, qui continuent d'émettre de la monnaie sous l'égide, bien sûr, de la BCE. Alors, décider de faire contre l'avis de la BCE, c'est-à-dire violer les traités qui constituent l'union économique et monétaire, donc c'est-à-dire grosso modo la zone euro, ça n'empêche pas de le faire et de pondre du billet ou de la pièce et peut-être de relancer la machine en Grèce. Alors les risques, il y en a deux, c'est que soit la BCE le prend mal, ce qui paraîtrait assez logique quand même, et fasse tout pour virer la Grèce, ou en tout cas suspendre la circulation des euros d'origine grecque, hein, parce que les billets sont pas tout à fait les mêmes. Du coup, on bloque les euros grecs. C'est arrivé déjà à Chypre, hein, donc ce serait pas la première fois, voire du coup pousser la Grèce vers la sortie de l'euro. Soit l'autre attitude, c'est que la BCE, elle comprend que de toute façon elle a pas non plus beaucoup de choses à faire, et elle peut plier en disant rien. Sauf que c'est très risqué pour elle, puisque ça montrerait qu'elle est capable de soumettre finalement à un État et de montrer qu'elle est faible par rapport à un État. Bien évidemment, dans ces règles-là, c'est une question de force. On est dans un régime où il faut être fort, et donc du coup, c'est les plus forts qui gagnent. Pour l'instant, la BCE est plus fort. Mario Draghi est plus fort que toute la population grecque. C'est ça le capitalisme. C'est pas les gens qui sont importants, c'est ce qu'ils représentent. Et aujourd'hui, la BCE représente plus que la Grèce et les gens qui habitent en Grèce. Donc voilà, on aura une idée dans quelques semaines, voire dans quelques mois, sur ce qui va se passer. En tout cas, on a pu constater que il y a, même si Hollande a été un petit peu gentil, il y a une énorme coalition anti-grec et anti-gouvernement grec, parce que forcément, il y a que des régimes capitaliste et de droite en place en Europe, et donc arriver quelqu'un de gauche, ça énerve même la droite socialiste française, hein, le PS, qui fait partie des pays qui ont demandé toutes ces réformes, supprimer les fonctionnaires, baisser les salaires en Grèce, baisser les retraites. Bon, en gros, grosso modo, faire qu'il y ait de plus en plus de pauvres en Grèce, sans toucher aux riches quasiment, parce qu'il faut surtout pas toucher aux riches, qui est bien une politique traditionnelle de la droite, qui était portée entre autres par le PS, l'Allemagne et puis plein d'autres. Donc voilà, dans quelques semaines, nous pourrons faire un autre bilan. On poursuit avec un petit bout d'actualité israélo-palestinienne, ça fait longtemps que j'en ai pas parlé, juste avec une des conséquences indirectes de la guerre de l'été dernier dans la bande de Gaza. C'est un rapport de l'UNESCO qui étudie les dégâts matériels, humains et éducatifs qu'ont subi les institutions de l'enseignement supérieur palestinien, donc pendant l'attaque du mois d'août. Et les conclusions de l'agence de l'UNESCO, membre de l'ONU, font état, je cite, d'institutions de l'enseignement supérieur directement visées durant les hostilités. Alors on va détailler les choses, mais c'est une des phases de la guerre qu'on n'avait pas saisi au début. On comprend bien, on valide pas, mais on comprend bien que l'armée israélienne a pour objectif de détruire toute présence palestinienne dans le Grand Israël, donc en Cisjordanie, dans la bande de Gaza. Donc on fait pression sur les populations. Alors officiellement, ils visent leurs ennemis politiques, le Hamas, mais dans les faits, ils visent tout ce qui peut permettre à la population de vivre. Donc on vise les écoles, on vise les enseignements, les facs, grosso modo, l'enseignement supérieur, parce que l'objectif, c'est que la population ne puisse plus vivre, ne puisse plus faire d'études, ne puisse plus apprendre, ne puisse plus se renseigner, etc. Donc on attaque toutes ces choses-là. Ça fait partie de la guerre israélienne pour faire que, parce que c'est l'espoir, hein, quand on fait ces guerres-là, que les Palestiniens se barrent. Grosso modo, c'est bien ce qui est voulu, parce que sinon il n'y a aucune autre raison d'attaquer une fac. Il n'y avait pas de cache de bombes, il n'y avait pas, voilà, tout ça. C'est un vrai objectif de tout faire pour terroriser les populations et de leur donner envie de partir. Alors, dans le bilan que fait l'UNESCO, il nous explique que, alors, normalement, c'est censé, dans le droit international, y avoir une protection en cas de guerre contre les lieux d'enseignement, notamment l'enseignement supérieur. Bon, Israël s'assoit sur les règles internationales. Moi, ça sera pas la, c'est pas la première fois et c'est pas la dernière, malheureusement, j'imagine. Donc l'agence de l'ONU a envoyé des chercheurs et ils ont étudié tout ce qui s'est passé sur le terrain. Donc ils, le rapport décrit en détail, je ne vais pas sortir tous les chiffres, mais les personnels, les étudiants ont subi de lourdes pertes durant le conflit, notamment en pertes humaines. Il faut savoir que la mort des étudiants ont représenté 27,4% du nombre total de civils tués. Donc ça fait quand même beaucoup. Alors que dans la population, ils sont beaucoup moins que ça. Donc ça démontre cette volonté d'Israël de tuer l'avenir, finalement, des Palestiniens. Le personnel est mort aussi. Enfin, il y a eu pas mal de morts aussi dans le personnel. Il y a toutes les chiffres avec les blessés. Et puis, voilà, les bâtiments ont été très, très attaqués, très détruits. Du coup, il y a aujourd'hui quasiment impossibilité de faire des études dans la bande de Gaza. Alors, ça changera sûrement pas beaucoup la donne du côté israélien, mais ça redémontre et ça remet la pression un peu sur la communauté internationale pour qu'il y ait des condamnations d'Israël sur cette guerre, puisque c'est pas une guerre faite contre un ennemi qui pourrait être le Hamas, par exemple, de la part d'Israël, puisque c'est une guerre contre la population et les rapports qui tombent, voilà, tous les mois, tous les deux mois, on a un rapport sur un domaine particulier de cette guerre, démontre à chaque fois cette volonté-là. Et ça, normalement, c'est censé être condamné, mais vraisemblablement, personne est prêt à avancer dans ce domaine-là.
Partout dans le monde, et là sans aucune exception, où triomphe la dictature et le mépris des droits de l'homme, partout, vous y trouvez inscrit, là, en caractère sanglant, la peine de mort.
Alors cette petite rubrique sur les barbares, donc c'est personnes, gouvernement, état, groupe qui pratiquent encore la peine de mort. Même si on croise les doigts encore, la France échappe à la peine de mort. Mais il y a quand même, avec les différentes affaires qui arrivent de temps en temps, le retour d'un discours demandant le rétablissement de la peine de mort, porté essentiellement par la droite, hein, notamment à la droite de l'UMP. Et puis bien évidemment par tous les fachos et leurs groupes, les identitaires, le FN, j'en passe et des meilleurs. Mais nous allons faire le bilan de ce qui existe, de ce qui s'est passé ces derniers jours sur la peine de mort. Et c'est quand même pas très glorieux. Donc l'Arabie Saoudite, grand spécialiste de la peine de mort, donc a tué aujourd'hui 4 Saoudiens et un Pakistanais pour trafic de drogue. Hier, toujours l'Arabie Saoudite, 3 Saoudiens condamnés à mort pour viol et meurtre ont été décapités. Ben, c'est la pratique hein, en Arabie Saoudite. Du coup, si on fait le bilan, aujourd'hui, on a 25 morts depuis le début de l'année. C'est parti sur les chapeaux de roue quand même, hein, on peut le dire. S'ils vont à cette vitesse-là, ils battent largement le record de l'année dernière. Et puisque ils ont un très très bon rythme, alors cette semaine c'est aujourd'hui 4, hier 4 plus un Pakistanais ça fait 5, hier 3, et si on remonte encore avant, il y en a eu d'autres, donc voilà, c'est pas gagné. D'ailleurs, si on remonte un peu avant, c'était le 3 février, donc il y a 2 jours, c'est un Jordanien qui avait été condamné à mort pour trafic de drogue. Il avait fait rentrer des amphétamines en Arabie Saoudite, il a donc été condamné à mort. D'ailleurs, ça avait fait réagir certains experts de l'ONU, qui avaient dit qu'il y avait quand même des doutes sur la légalité et le respect des procédures judiciaires en Arabie Saoudite. Vous dites non. Je sais pas ce qu'il voulait dire ça, bien évidemment. On n'a pas le détail, mais oui, a priori, les procédures judiciaires sont un peu expéditives dans certains cas, comme c'était le cas de ce Jordanien, qui a été lui aussi décapité mardi. Juste au-dessus plutôt, la Jordanie, avec la vengeance de l'État jordanien, puisque l'État jordanien a exécuté 2 prisonniers djihadistes, Sajida al-Rishawi, donc un kamikaze de l'État islamique. C'est celui dont l'État islamique demandait la libération en échange du pilote d'avion. Et comme ils ont tué le pilote d'avion en le brûlant vif, un truc absolument horrible, ils ont l'État jordanien s'est vengé et a donc pratiqué la peine de mort sur ce militant, sur ce kamikaze. Du coup, ils se mettent au même niveau, c'est tout le problème de la peine de mort, puisque la Jordanie, finalement, est aussi criminelle que l'État islamique. Ça grandit jamais un pays, la peine de mort, hein, mais là, ça l'a beaucoup rabaissé, la Jordanie. Le deuxième personne, c'était quelqu'un d'Al-Qaïda, voilà. Donc, pour Sajida, il a quand même tenté de se faire exploser. Il avait tué 60 personnes. Il avait survécu à l'attentat puisque sa propre ceinture d'explosifs s'était pas déclenchée. Voilà. Alors, partons sur la démocratie américaine. Puisque là-bas aussi, on assassine au nom de l'État très très facilement. Donc, c'est arrivé hier, le meurtrier d'un policier qui est membre d'un gang qui s'appelait Texas 7, donc a été déclaré mort par injection létale à 18h25, heure locale à Huntsville, oui, c'est au Texas, c'est la fameuse localité d'Huntsville où se pratique la peine de mort du Texas. 52 ans, alors il était célèbre parce que dans son groupe des 7, la Texas 7, il s'était évadé du pénitencier juste à côté d'Huntsville, là où il a été assassiné, avec cette de ses camarades dans un truc rocambolesque, un truc qui avait fait la une des journaux aux États-Unis. Et quand ils avaient été au cours du braquage, ils avaient tué un flic. Et sur les, donc lui, il a été tué par exécuté là au Texas. C'est le troisième membre du gang qui est exécuté pour le meurtre de ce policier. Il y en a trois autres qui sont dans le couloir de la mort et qui attendent, et ça fait 6, et le 7e, en fait, s'est suicidé quand il a pris l'arrestation de ses complices plutôt que de finir dans une geôle. Donc faut savoir qu'il était dans le couloir de la mort, ce Donald Newberry, depuis 2002, donc ça faisait déjà un certain nombre d'années. Voilà, c'était juste pour dire que ça continue aux États-Unis. Il y avait eu une demande de la justice, de son avocat en tout cas, d'avoir un vrai procès parce qu'ils estiment qu'il n'y avait pas eu de vrai procès. Il faut dire que il est considéré comme avoir tué et jamais rien n'a pu prouver que c'était lui qui avait tiré ce Donald. Effectivement, ils étaient 7 à s'évader. Il y en a a priori un qui a tué le flic, mais il les tue tous. Les 7, parce qu'ils savent pas qui a tué. C'est quand même pas mal tout ça. Alors c'est encore moins glorieux pour ce qui arrive à la suite, puisque c'est toujours aux États-Unis, toujours au Texas que ça se passe. Un grand moment de l'évolution de l'être humain, le Texas. Hein. Ça démontre qu'on est finalement pas très loin du règne animal, puisque c'est encore la loi de la jungle qui prime, hein, vengeance, œil pour œil, dent pour dent. Donc là, c'est Robert Ladd qui a été exécuté par injection létale. Donc voilà, il était condamné il y a un petit moment. Ce qu'on peut noter, c'est qu'il avait, c'était un handicapé mental. Bon, et il a quand même été exécuté. Bah oui, officiellement, la Constitution des États-Unis interdit les exécutions des handicapés mentaux, mais comme la qualification d'handicapé mentaux est un peu aléatoire suivant les États. Et ben là, Robert Ladd officiellement ne l'était pas pour le Texas, alors qu'il l'était vraiment handicapé mental. La même chose pour ce prisonnier de Georgie, c'était, alors là on remonte un peu avant, c'est le 27 janvier, Warren Lee Hill, qui a été lui aussi exécuté par injection létale en Géorgie, donc en Géorgie aux États-Unis, après que le comité des grâces ait refusé de commuer sa peine en prison. Donc voilà, lui aussi, gros retard mental, mais c'est pas grave, on assassine quand même. Toujours aux États-Unis, une bonne nouvelle ou pas d'ailleurs pour l'Ohio et pour ces condamnés dans le couloir de la mort, puisque ils avaient prévu 6 exécutions en 2015, elles sont repoussées à l'année prochaine tant qu'ils n'ont pas trouvé un nouveau produit. Hein, vous savez que ça fait partie des choses qui sont mal passées, notamment dans l'Ohio, où un condamné à mort a mis 2 heures pour mourir, c'est-à-dire 2 heures de torture totale. Donc l'État a décidé non pas de les mettre en prison et de commuer leur peine. Faut quand même pas non plus prendre les juges américains et les juges géorgiens en tout cas pour des êtres humains sensibles et tout ça. Non, ils repoussent d'un an le temps qu'ils mettent au point des produits, qu'ils récupèrent des produits plus efficaces pour assassiner leurs prisonniers. Et puis pour terminer, la Chine, grand pays sur la peine de mort, c'est celui dont les chiffres sont les moins précis, puisque la Chine, les chiffres sont jamais donnés officiellement. Il faut aller les chercher, et c'est un petit peu compliqué. Donc officieusement, ça serait vraiment le pays qui assassine le plus ses citoyens à travers les condamnations de la justice. Là, c'est les deux membres d'une secte qui ont été exécutés. C'était lundi dans la province orientale du Shandong. Bon, ils avaient battu à mort une femme dans un restaurant McDonald's en mai 2014. Je sais pas pour quelle raison exactement, mais quoi qu'il arrive, ça ne méritait certainement pas d'être assassiné. Donc, je vais être exécuté par balle, ce qui est le cas assez courant en Chine. Voilà, 19h24 à la pendule de la plus rebelle des radios, on continue ce Canu Info. On va parler de François Hollande très très rapidement, puisque le petit François, président de la France, a fait son discours en fin de matinée. Après donc son rebond dans les sondages, que l'on prendra pour ce que c'est, hein, puisque les sondages, c'est pas toujours très fiable, voire jamais très fiable. Ça dépend tellement de la manière dont les questions sont posées. Enfin bon, maintenant que sa cote de popularité a remonté et qu'il est tout content dans son petit costume, il est allé essayer de rebondir sur cet effet « je gère correctement l'assassinat des clients du supermarché Cacher et salariés de Charlie Hebdo ». Et il y est allé sur le retour du fils de la vengeance du service militaire. Et oui. Alors ceux qui... bon, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, hein, comme dirait un chanteur célèbre. Non, il y a le retour du service, en tout cas obligatoire. On ne sait pas bien ce que c'est militaire, civique. Les avis divergent, mais en tout cas, ça sent pas bon. Alors, on sait que le service civique, il existe actuellement. Hein, c'est un service civique qui est pas obligatoire. Ça concerne quelques centaines de milliers de jeunes qui, pour 573 € par mois, travaillent dans des collectivités, dans des établissements publics, l'école, hôpitaux, dans des associations, des choses comme ça. Voilà, idéologiquement, moi, je comprends pas très bien pourquoi on affecte ces jeunes avec des salaires de misère. Si ces associations, ces établissements publics, ils ont besoin de salariés, eh ben qu'ils les embauchent avec des vrais salaires pour que les gens puissent vraiment vivre, hein, avec cet argent. Donc pour l'instant, le service civique, c'est quand même pas terrible. D'ailleurs, son chef, c'est le traître syndicaliste, ancien syndicaliste François Chérec de la CFDT, mais dans son passé. Donc voilà, et là, il y a eu le débat de est-ce qu'on relance un service obligatoire, civique ou pas. Et oui, il y a l'idée de relancer un service civique obligatoire. Donc Hollande a quand même rassuré pour ceux qui avaient peur. Si on en est là, et ça passerait par un référendum, ce qu'il veut demander au peuple, ce qui est plutôt rassurant, quoique. Mais enfin bon, bref, pour l'instant, c'est plutôt toujours sous la forme d'un service civique non obligatoire, mais avec la volonté d'avoir plus de jeunes, donc il faut ça, puisque ça, il faut avoir entre 16 et 25 ans, donc ils vont essayer de remettre du budget là-dedans. Voilà. Alors ceux qui ont connu le service militaire, qui était quand même une horreur, avec toutes les techniques qu'on a pu utiliser pour y échapper, je dis on parce que ça, j'en fais partie des gens qui ont tout fait et qui sont arrivés à échapper à cette horreur où pendant un an on était bon déjà avec des militaires, ce qui frôle pas l'intelligence, mais en plus pendant un an on sert un soi-disant un État, donc on fait du travail gratuit avec la propagande qu'on peut connaître ou qu'on pourrait connaître dans le service civil futur s'il était obligatoire, hein, la propagande républicaine, enfin on peut tout imaginer, hein, mais c'est pas quelque chose d'émancipateur, hein, pour les citoyens, puisque quand on va dans un truc comme ça où on nous rabâche qu'il faut être, comment faut agir, comment faut se comporter, etc., c'est anti-émancipation bien évidemment, et c'est toujours le côté quasi totalitaire de ces choses-là, notamment si c'est obligatoire. Alors pour l'instant, on y a échappé, ça a débattu un petit peu. J'ai bien peur qu'un jour ça revienne. D'ailleurs, si pour ceux qui ont connu, quand Chirac, un gars de droite, hein, mais qui a fait une chose très très bien de supprimer ce service civil militaire, ce service militaire plutôt obligatoire, ça avait fait débat, hein, notamment au sein de la gauche, dont une partie, voire de l'extrême gauche, défendait l'idée que l'armée doit pas être professionnalisé, mais doit être fait par des citoyens, ce qui idéologiquement se défend, sauf quand on est comme moi contre toutes les armées. Du coup, ça marchait moins bien et on était bien content que Chirac fasse sauter cette horreur. Donc voilà, j'espère que ça reviendra pas tout de suite quand même pour ceux qui sont en âge d'être mobilisés dans un service civil ou autre. On va parler un petit peu d'environnement maintenant. Ce matin.
Radio Canis, la radio qui venge même les lapins.
Alors nous n'allons pas parler de lapins, mais nous allons parler des autres animaux dont les êtres humains font partie et qui meurent sous l'action des pesticides et autres produits chimiques et toxiques. Et c'est le bilan du plan Ecophyto, vous savez, ce plan lancé, je crois, sous Sarkozy avec ce fameux Grenelle de l'environnement où on avait comme objectif d'ici 2018 de diviser par deux, c'est-à-dire diminuer de 50% l'usage de ces produits cancérigènes, qu'on appelle les pesticides, en France. Et le bilan aujourd'hui, il est horriblement triste, puisqu'on est à plus 10% entre 2009 et 2013, au lieu des moins 50 qu'on était en droit d'espérer. Il faut dire que les paysans, la FNSEA, la FDSEA, tous ces grands pollueurs assassins n'ont pas fait beaucoup d'efforts, voire ont torpillé au maximum ce qui pouvait l'être. Alors, faut savoir que déjà, au début, la loi, elle était incitative. Elle est toujours incitative. Donc, forcément, on leur dit de changer de modèle d'agriculture, ils ont dit non, ça leur allait très bien, eux ils en ont rien à faire. Pourtant il y a moult paysans hein, qui ont des cancers dont les maladies sont, ces maladies sont reconnues maladies professionnelles à cause de l'utilisation de ces produits chimiques dangereux. Mais non, ils s'obstinent dans ce type d'agriculture destructrice de l'environnement, c'est-à-dire de la vie, donc des vers de terre, des êtres humains, etc. Des abeilles, je vous en passe, et des meilleurs. Donc voilà, la solution, elle est loin d'être trouvée. Faut savoir qu'il y avait une loi qui a été proposée au Sénat, donc initié par Joël Labbé, qui est un sénateur écolo, et Germinal Peyrot, qui est un député socialiste. Une proposition de résolution donc qui a été examinée hier par le Sénat. Elle avait été au départ signée par 182 députés et sénateurs de tous bords. Elle invitait le gouvernement à agir auprès de l'Union européenne pour obtenir un moratoire, c'est un arrêt provisoire, sur l'ensemble des pesticides néonicotinoïdes. C'est ceux qui sont dont on a des études maintenant qui prouvent hein, qu'ils sont en partie responsables de la mort de millions d'abeilles. Donc, c'est des produits qui agissent sur le cerveau des insectes et qui les font mourir hein, quelque part. Alors, c'est censé faire mourir les mauvais insectes, parce qu'il paraît qu'il y a des mauvais insectes, mais ça fait mourir aussi les bons, et sans parler de l'empoisonnement des rivières, des paysans et de nous. Hein, puisque nous en mangeons forcément. Donc voilà. Alors il y a eu quand même des règles qui ont essayé de ralentir la diffusion de ces produits qui tuent les abeilles, mais en fait il y a tellement de restrictions, d'exceptions que c'est totalement inefficace. Eh ben la bonne nouvelle, ah non c'est pas une bonne nouvelle pardon, c'est la mauvaise nouvelle, c'est que les sénateurs eh ben ils ont voté contre. Donc la proposition a été mise de côté. Voilà. Donc c'est quand même triste hein, de voir ces sénateurs valider l'idée qu'on ait le droit de détruire l'environnement, de continuer de faire que les populations attrapent des cancers, hein, que la moitié des cours d'eau soient pollués en France, etc., etc., et que les abeilles sont décimées. C'est bien triste tout ça, quand même. Comme quoi le lobby hein, de la FNSEA et de leurs amis pollueurs est très très efficace. Alors justement, on va parler de la FNSEA, de la FDSEA et tout de ces gentils paysans très à droite, puisque il y a deux infos qui sont télescopées sur ce qui se passe à Sivens. Vous savez cette ZAD d'opposition à la construction de ce barrage là qui va détruire une zone humide. À savoir que il y a des études hein, qui ont démontré que ces zones humides hein, qui renferment beaucoup de variétés de plantes, d'insectes, d'animaux sont détruites d'année en année et que d'ici quelques temps il n'y en aura quasiment plus. Alors, il y a un article dans le Canard enchaîné d'hier qui reprend bien un peu le bilan de ce que subissent les zadistes aujourd'hui. Alors, il nous explique dans cet article que les sections tarnaises, donc du Tarn et du Tarn-et-Garonne de la FNSEA, s'échauffent contre les zadistes, même actuellement, alors qu'ils sont une cinquantaine seulement sur le site, avec des menaces de mort, notamment. Alors moi, j'ai cru que les menaces de mort étaient interdites en France, sauf quand on est de la FNSEA, puisqu'on a pu voir des panneaux avec écrit « ZAD, t'es mort »,« ZAD égale boum »,« battu aux zadistes ». On a pu voir des mannequins pendu avec écrit zadiste, voilà. Alors bien évidemment, vous faites ça, vous envoyez une lettre de menace de mort à François Hollande, vous êtes arrêté tout de suite. Par contre, la FNSEA, elle a le droit de menacer de mort des militants. Elle est soutenue, de toute façon, par les gendarmes. On va le voir par la suite comment ça se passe dans cette belle région, cette association de gens d'extrême droite dans la FNSEA et la gendarmerie. Il y a par exemple Pierre Lacoste qui raconte qu'un éleveur de bovins et qui est un opposant qui a reçu une lettre anonyme « Nous ne voulons plus te voir, on va te crever ». Donc c'est sympathique quand même. Il y a eu un site internet qui a été monté par des riverains dits anonymes qui mettent en ligne des photos, des vidéos incitant à aller se débarrasser de ces voleurs, de ces criminels, de ces terroristes que sont les zadistes, avec comme d'habitude des menaces « ZAD, tes jours sont comptés ». Voilà. Donc toutes ces menaces de mort sont... bien évidemment, pas prise au sérieux par les forces ni les forces de répression ni la police d'ailleurs. Et témoignage nous est arrivé, c'est quelqu'un qui est maire d'un village qui s'appelle Saint-Amancet, donc qui est pas très loin de Sivens. Donc il raconte, lui, et je vais lire son témoignage, il raconte ce qui lui arrive. Alors, donc, il voulait se rendre sur le site de Sivens, c'est arrivé le week-end dernier. Impossible. Des pro-barrages bloquent la route. Ils nous insultent, ils nous menacent. Nouvelle altercation. Dimanche 1er février au matin, j'étais sur la route en direction de la forêt de Sivens pour assister aux animations prévues dans le cadre de la journée mondiale des zones humides. En arrivant sur le lieu dit de Barat, aux alentours de 10h15, j'ai découvert que la route était bloquée par une trentaine d'individus. Ils se sont présentés comme des agriculteurs et chasseurs pro-barrage, originaires de la région. Je suis agriculteur et maire de la petite commune de Saint-Amancet. Je n'étais a priori pas opposé au barrage, mais j'ai été choqué par la mise en place de la violence qui a conduit à la mort de Rémi Fraisse. Ceci m'a poussé à explorer le sujet plus en détail. C'est là que j'ai réalisé le manque de sérieux du projet et depuis je continue à suivre la question de près. J'ai donc entamé la conversation avec les gens qui barraient la route, là, avec certains d'entre eux, mais la discussion a vite tourné court car d'autres ont commencé à m'insulter à coups de « dégage de là » et d'autres phrases du genre « Vous êtes élu ? J'espère que vos électeurs vont vous cracher à la gueule. » Ils ont ensuite menacé de me foutre dans le ruisseau et de retourner mon véhicule à l'aide de leur tracteur. Vers 11h30, nous avons décidé, avec d'autres conducteurs bloqués, de faire demi-tour. Au moment de partir, j'ai surpris quelques-uns de ces pro-barrages en train de prendre des photos de ma voiture. Des pro-barrages armés de barres de fer et de pioches. Arrivé à Gaillac, avec quelques-unes des personnes n'ayant pas pu accéder au site, nous nous sommes réunis dans un appartement afin de décider de ce que nous allions faire. C'est là qu'on nous a prévenu qu'une bande de pro-barrages se dirigeait vers nous, barres de fer et de pioches à la main. Je pense qu'ils nous avaient suivis. Ils portaient des treillis, des brassards orange, des sweatshirts noirs à cagoules, ornés du logo « Brigade anti-pelu, soutien aux gendarmes de Sivens ». Avec quelques-uns, on a décidé de sortir à leur rencontre, histoire de calmer le jeu. Je pensais qu'en tant que maire et agriculteur, j'arriverais à leur faire entendre raison. Mais ça n'a pas vraiment marché. Et on s'est fait accueillir par une volée d'insultes et de menaces. Les gendarmes sont arrivés peu après. Ils étaient en fait à la recherche d'un anti-barrage qui aurait, selon eux, agressé un membre de la bande. Lorsque je leur ai expliqué la véritable situation, ils m'ont rétorqué que le témoignage de la personne qui avait été agressée était plus crédible que le nôtre. Ils sont alors rentrés de force dans l'appartement dont je venais de sortir, en me bousculant et en ne prêtant que très peu d'attention à la bande qui nous agressait et à leurs armes. Un peu plus tard, alors que j'allais reprendre ma voiture, j'ai découvert que mon pare-brise et ma vitre latérale avaient été cassées à coups de barre de fer. C'était assez clair au vu des impacts. Une autre personne de notre groupe s'était fait crever les quatre pneus dans la matinée. Nous nous sommes alors rendus à la gendarmerie pour porter plainte. Les gendarmes ont accepté la plainte pour vandalisme, mais rejeté tout ce qui concernait les menaces et les insultes. Nous sommes donc sortis. C'est alors que 5 personnes, faisant partie du même groupe qui nous avait agressé 2 fois, sont arrivées devant la gendarmerie. J'ai appelé à l'aide par l'interphone, mais les gendarmes m'ont répondu qu'ils pouvaient voir la scène de la fenêtre et que le groupe n'était pas menaçant. Ce n'est que lorsqu'un jeune journaliste présent sur place s'est fait fracasser son appareil photo que les gendarmes sont ressortis. Plutôt que d'immobiliser l'agresseur, ils ont préféré demander à la victime de présenter sa carte de presse. Finalement, ils ont bien ceinturé un type armé d'une barre de fer, mais l'ont relâché quelques minutes plus tard, sans relever son identité. Voilà. Alors je continue, j'ai pas fini. Les scènes que j'ai vues dimanche m'ont rappelé des épisodes conduits par le parti Aube Dorée auquel j'ai pu assister en Grèce. Elles sont inacceptables dans un pays comme la France. Et je continuerai à lutter contre cette violence, quelles que soient les menaces. Donc voilà le témoignage de ce maire et paysan de cette région. Montre bien d'abord l'existence de ces milices d'extrême droite qui y a donc notamment à la ZAD de Sivens. On ne sait pas qui y a dedans. On sait, vu l'info qui a été donnée avant, que la FNSEA, ce qui a été donné dans le Canard Enchaîné, soutient ces actions, est du côté des anti-zahadistes, hein, la FNSEA du Tarn-et-Garonne et la section du Tarn, que là, ces milices peuvent circuler sans aucun problème, que la gendarmerie soutient ces milices, ne les arrête pas, les dépôts de plainte ne peuvent pas aller loin puisque la gendarmerie ne relève aucune identité. Voilà aujourd'hui ce qui peut se passer dans cette ZAD et autour de cette ZAD de Sivens, qui est assez caractéristique de ce qui peut se passer dans les différentes zones occupées. On parlera tout à l'heure de la création de cette ZAD qui a lieu pas loin de chez nous, vers Grenoble, contre un Center Parcs. Donc voilà, il y a un développement des idées d'extrême droite, hein, on le voit un peu partout, et notamment dans ces syndicats paysans, qui on savait déjà hein, qu'ils étaient gangrénés par l'idéologie productiviste, et puis c'est aussi cette idéologie très fasciste hein, de taper sur tous les écolos. Hein, il y a eu moult agressions d'écolos par des paysans, et ça on peut remonter sur les 50 dernières années pour se faire une idée et avoir les chiffres, et ça fait très très peur. Donc voilà, de voir que la gendarmerie, c'est-à-dire l'État et la justice, s'allient à ces milices et les laissent agir, voire les soutient, c'est quand même triste de voir tout ça arriver, et pas si loin que chez nous que ça, puisque c'est à Sivens. Donc voilà, c'était le petit mot sur ces anti-écolos. On va poursuivre en parlant d'autres choses et on va parler du nucléaire. Alors c'est pas toujours plus drôle, hein, le nucléaire. Là c'est une belle menace, un beau chantage fait par une entreprise américaine. Faut dire qu'ils sont un peu coincés. C'est une entreprise qui est basée à Chicago, qui s'appelle Exelon Nucléaire. Exelon Nucléaire, ils ont une centrale nucléaire à Clinton notamment. C'est une ville, c'est pas que Bill, c'est une ville. Ainsi que dans le comté de Dogle et de Rock Island. Et ils veulent fermer la centrale de Clinton. Et ils disent simplement à l'État, voilà, c'est simple. Nous, on arrête tout si vous arrêtez, si vous nous soutenez pas, si vous nous subventionnez pas. C'est un gros chantage économique parce qu'ils estiment que aujourd'hui, développer les sources d'énergie alternatives comme l'éolien, c'est pour eux une concurrence déloyale parce que l'éolien est aidé par des dégrèvements de taxes notamment, c'est-à-dire des subventions indirectes. Donc voilà, ils font du chantage, je trouve ça assez marrant de voir ça. Alors que ils ont ce qu'on peut noter quand même, c'est que Exelon Nucléaire a la même propagande que le nucléaire français, c'est-à-dire très mensongère. Ils disent par exemple, ils comprennent pas pourquoi ils auraient pas droit à ces incitations financières puisque eux aussi ils produisent de l'énergie propre qui ne produit pas de dioxyde de carbone. Alors d'abord, c'est pas du tout propre l'énergie nucléaire, hein, la pollution elle est bien créée, elle est bien là pour des millions d'années ou des centaines de milliers d'années minimum, et dire qu'elle ne produit pas du dioxyde de carbone, c'est bien évidemment totalement faux. Elle n'en produit pas au moment de la production de chaleur, c'est-à-dire d'électricité, mais elle en produit tout le long de la chaîne, hein, pour retraiter, pour fabriquer, pour extraire, pour transporter. Donc voilà, c'est juste un moment où ça ne produit pas de CO2. Bien évidemment, ils sont en position de force parce que s'ils comparent au charbon, qui est une grosse source d'utilisation, la plus grosse pour faire l'électricité aux États-Unis, ils en produisent beaucoup moins de dioxyde de carbone. Mais vaut-il mieux émettre des dioxydes de carbone ou des millions de tonnes de déchets radioactifs? Je ne sais pas si le choix est assez facile. Alors toujours pour l'uranium, n'enrichit pas le monde et encore moins les pays pauvres dont il est issu. Alors c'est un petit exemple qui est donné par l'ONG Oxfam qui reparle du Niger et des Nigériens. Parce que vous savez que une grosse partie de l'uranium qui se fissure dans les centrales nucléaires françaises vient du Niger, hein, puisque Areva, une grosse entreprise française, à deux filiales locales, la Somaïr et la Cominac, qui exploitent ces mines. Alors, ils sont allés regarder au niveau économique l'impact que ça avait sur les Nigériens, qui devraient être riches, hein, puisque il y a quand même des millions de tonnes d'uranium qui sont extraits de là-bas. Donc, les Nigériens devraient être un pays riche. Pourtant, c'est bizarrement encore l'un des plus pauvres du monde. Aïe. Y aurait-il du vol? Y aurait-il de l'exploitation? Eh ben oui, c'est le rapport d'Oxfam, hein, qui reprécise tout ça. D'ailleurs, ce qui est assez surprenant, c'est qu'au Niger, 90% de la population n'a pas accès à l'électricité. Et pourtant, on leur bousille la région pour que le petit français moyen ait de l'électricité. Donc, ils sont allés voir comment ça se passait. Alors, Areva se défend en disant, mais attendez, nous, 70% de la valeur de l'uranium revient à l'état du Niger. Ah. Donc si on regarde, hein, en 2010 par exemple, le dernier chiffre qu'on a, 114 346 tonnes ont été extraites, ça fait 3,5 milliards d'euros. Donc 70% de 3,5 milliards d'euros, ça fait plusieurs milliards d'euros, au moins 2 milliards d'euros, et pourtant le pays n'a touché que 460 millions d'euros, c'est-à-dire 13%. Donc il y a un énorme mensonge d'Areva, et en plus quand ça va à l'État nigérien, ça va pas forcément au peuple. Donc en plus, double peine pour les habitants du pays et de la région. Voilà. Bon, il y a plein de reproches qui sont faits à Niger, c'est juste pour à Areva, juste pour rappeler que en France, ceux qui prennent leur électricité chez EDF, grosso modo, ça doit être les deux tiers de la population minimum. Ces deux tiers, indirectement, sont responsables de la misère qui continue d'exister au Niger. C'est pour ça que l'électricité nucléaire est pas chère. Il y a plein de raisons, mais ça, c'en est une. Si on n'exploitait pas le Niger et qu'on les payait normalement, eh ben ça serait plus cher, hein. Donc voilà. Nous allons continuer dans l'environnement. D'ailleurs, on va rester sur le continent africain. On n'en a pas encore parlé, et pourtant il y a une grosse protestation en Algérie sur l'exploitation du gaz de schiste. Alors l'idée au départ de l'État algérien, c'est devant la baisse du prix du pétrole, ils ont décidé de développer le gaz de schiste parce que il faut vendre toujours plus pour compenser les baisses. Alors, il y a une grosse opposition, hein, de la population, et puis il y a des écolos, on les connaît pas bien, les écolos algériens, mais ils sont là. Donc il y a eu plein de manifs le week-end dernier, notamment samedi, par exemple à Ouargla, à 800 km au sud-est d'Alger, à Metlili, à Guardaïa, à plein d'endroits. Donc il y a une très très grosse mobilisation pour dire non. Alors pour l'instant, et c'est ce qu'a dit Abdelaziz Bouteflika, ce sont juste des essais, l'exploitation proprement dite n'est pas à l'ordre du jour, mais tout le monde sait, de partout dans le monde, que quand on fait des essais et que les entreprises privées financent des essais, c'est bien parce qu'elles savent qu'après elles vont pouvoir exploiter les puits, hein, faut pas non plus prendre les gens pour des imbéciles. Donc du coup, la population se mobilise. Ils ont peur quand même de différentes choses, mais comme de partout sur l'exploitation des gaz de schiste, c'est-à-dire là, les dizaines, centaines, milliers de produits chimiques cancérigènes, notamment pour certains, qui vont être émis dans l'environnement. Et puis, le plus gros impact sur la région, c'est que c'est des régions où il n'y a pas beaucoup d'eau. Et pour extraire du gaz de schiste, il y a besoin d'énormément d'eau. Donc du coup, cette région qui est déjà en stress hydrique important, ils vont l'être encore plus, hein. Ils pompent actuellement sur des réserves d'eau qui sont millénaires et qui sont pas renouvelées. Donc du coup, au moins, il n'y en aura plus. Alors si on en fait juste pour sortir du gaz, c'est quand même pas terrible. Du gaz dont ils ont pas forcément d'ailleurs besoin localement, même pas du tout. Donc voilà, la protestation est assez forte, hein, depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, en Algérie. Elle a continué le week-end dernier et je pense qu'elle continuera encore après. Et puis pour terminer cette rubrique environnement, nous allons parler du retour de du fils de la vengeance, de la pastille verte. Alors c'est Ségolène Royan, hein, soi-disant ministre de l'écologie, mais plutôt ministre du développement non durable et de la destruction de la planète, qui cherche à inverser les tendances françaises, typiquement françaises, de sur-vente des véhicules à moteur diesel, pour inciter à faire des choix différents. Donc elle a fait un truc horriblement atroce, c'est-à-dire qu'il y a une prime qui va être donnée, je crois que c'est même jusqu'à 10 000 euros, pour que les gens changent de bagnole pour une bagnole moins polluante, voire pour une voiture électrique qui ne pollue pas en se déplaçant, mais dont la pollution a été bien évidemment la même, mais elle a été créée avant, quand on a produit l'électricité. C'est l'hypocrisie, hein, de la voiture électrique, puisque ça pollue autant, mais c'est pas au même endroit. Et du coup, on s'en rend moins compte parce que ça pollue pas à l'utilisation. Voilà, c'est prix Nobel de l'hypocrisie à tous ceux qui utilisent des voitures électriques et à Ségolène Royal, bien évidemment. Ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que pour ceux qui auraient la volonté de sortir du modèle tout automobile, c'est-à-dire de dire « moi, j'arrête ma voiture », on les aide pas. Par contre, si vous décidez de changer de voiture, on vous aide jusqu'à 10 000 euros. C'est quand même un système qui ne va pas dans le sens de l'environnement. D'ailleurs, enfin, de toute façon, elle n'a jamais été écolo, c'est Ségolène Royal. Donc, du coup, elle va pas prendre des mesures qui vont protéger l'environnement. Et finalement, quand on regarde toutes ces mesures, c'est toujours une seule volonté derrière. C'est des mesures qui subventionnent finalement l'industrie automobile. Donc, c'est de ça dont il est question. Mais il y a le retour de la pastille verte, qui est un truc qui n'a jamais vraiment marché. Mais bon, ils remettent la pastille verte. Et du coup, les deux grosses associations de défense de la destruction de la planète... Ah non, pardon. La défense des automobilistes, qui s'appelle 40 millions d'automobilistes, j'ai perdu le nom de la deuxième d'ailleurs. L'Automobile Club Association, eux, ils ont pas aimé du tout, et ils disent donc que c'est faux, que bon, ils ont plein d'arguments. Un argument qui est assez valable, hein, mais qu'ils détournent. Alors attention, c'est de dire, quand on fait ça, notamment sur l'idée d'interdire, par exemple, l'entrée des centres-villes et des villes d'ailleurs au diesel, au vieux diesel, ils disent que socialement c'est pas génial parce que ça met les pauvres en dehors des villes, ce qui est bien évidemment le cas, hein, ça c'est sûr. Sauf qu'il y a une solution alternative qu'ils ne mettent jamais en avant, c'est développer les transports en commun, les transports collectifs, et les rendre gratuits. Du coup, les pauvres, quand ils vont en ville, ils se garent, s'ils viennent de loin, ils posent leur voiture dans les parkings relais, et après ils prennent les transports en commun gratuits, et ils rentrent pas dans leur ville, dans la ville. Les pauvres, comme les riches, d'ailleurs, du coup, il y a égalité, mais on sait que les transports en commun et transports collectifs gratuits développent énormément la liberté de circulation et baissent énormément la pollution. Mais ça, il n'en est ni question pour ces défenseurs du droit de rouler dans une voiture qui pollue, et ni chez Ségolène Royal. Pourtant, ça serait vraiment une énorme alternative à la voiture individuelle, hein, que le déplacement collectif est gratuit, bien évidemment, enfin gratuit à l'utilisation et payé par des actions collectives comme les impôts, des choses comme ça. Bon, voilà, on n'en est pas là, mais on n'attendait pas non plus qu'un gouvernement socialiste fasse des actions sur l'environnement. Un petit mot pour finir, en lien avec l'environnement, mais surtout en lien avec la justice. C'est une mauvaise nouvelle, hein, pour Amisol. Alors pas pour Amisol lui-même. Donc Amisol, c'est une ancienne entreprise qui produisait, qui utilisait de l'amiante, qui a, mais il paraît que c'était des conditions de travail apocalyptiques. C'est l'Andeva, l'association des victimes de l'amiante, qui décrit, après moult témoignages, les conditions de travail de ces salariés de cette usine, où il y avait des morceaux d'amiante dans l'air partout, des fibres d'amiante, mais c'était assez incroyable. Forcément, ils ont plein de morts. Le dernier patron, ultime patron, Claude Chopin, était il a dirigé l'entreprise que 6 mois, il a pris la succession de son père. Il était poursuivi, et c'est la Cour d'appel de Paris qui a dit qui a donné un non-lieu. Ce qui est triste, hein, pour les victimes de l'amiante. Alors il y a encore plein d'autres procès, mais jusqu'à maintenant tout a reculé. C'est-à-dire que tous les patrons qui sont responsables de dizaines, de centaines de milliers de morts, les chiffres, les autorités sanitaires, donc le chiffre officiel des autorités sanitaires, c'est d'ici 2025, donc d'ici 10 ans, 100 000 morts. Ça veut dire qu'il y a 10 000 morts par an tués par le choix des patrons, sans qu'il y ait quasiment aucune poursuite, enfin en tout cas quand il y a des poursuites, elles aboutissent quasiment à aucune condamnation. Donc aujourd'hui, ami serial killer, il faut pas prendre une Kalachnikov ou prendre un fusil si vous voulez tuer des gens. Faut être patron d'une boîte, hein. C'est assez facile. Et ça, c'en est la preuve, puisque même si Claude Chopin a été dirigeant de cette boîte que 6 mois, il aurait pu au moins symboliquement être condamné pour, pendant ces 6 mois, avoir permis à ses salariés de continuer de mourir. Alors c'est pas là, il n'y a pas que cette entreprise, hein. La cour d'appel en juillet dernier a annulé 9 mises en examen dans le dossier de la contamination du campus de Jussieu. Juste avant, c'était en mars, c'était là aussi Jussieu et c'était aussi Condé sur Noireau. Enfin voilà, il y a plein d'actions. L'affaire Eternit, je vous en parle même pas. Le principal mis en examen, Joseph Cuvelier, est décédé, donc du coup l'action en justice va s'arrêter. Et c'est ce que disent les avocats. Et les avocats, ils disent, mais en fait, les actions en justice vont toutes s'arrêter. Parce que tout le monde va mourir. Alors, les patrons, ils mettent beaucoup plus de temps à mourir. Mais les salariés, ils sont déjà tous malades, ceux qui portent plainte, donc ils vont tous mourir d'ici quelques années. Et en plus, si on regarde sur l'affaire Amisol, là qui vient d'être où il y a un non-lieu, 18 ans l'action de la justice elle aura duré pour arriver à un non-lieu. Donc forcément, la justice va s'arrêter faute de combattants. Ils sont tous morts, donc tués par ces fibres d'amiante. Allez, on va faire un petit point agenda parce que il est l'heure de se quitter. On se retrouvera bien évidemment la semaine prochaine, 19h-20h, avec l'équipe au complet, c'est-à-dire Delphine et Laurent. Et demain, 19h, pour le prochain Canu Info. Comme dans l'agenda, j'ai deux petits trucs. Un truc, justement, dans les ZAD, les zones à défendre, c'est à Roibon. La zone de défense des Chambarans. Roibon, c'est dans le 38, c'est vers Grenoble, contre l'édification du Center Park et la destruction donc des forêts et des zones naturelles qu'il y a là-bas. Donc c'est un truc à la fois festif et militant, donc des ateliers, des spectacles, une cantine, des concerts, plein de choses. C'est ce samedi, donc samedi 7 février, rendez-vous à 10h au lac de Roibon pour une manifestation en direct du chantier, et à 12h pique-nique, construction de barricades et de cabanes, etc. Et installation de ceux et celles qui veulent. Bien évidemment, plus d'infos sur zadroibon.noblogs.org ou aller dans l'agenda de Rebellion. Et puis, j'ai pas tout compris, mais c'est la question de l'habitat collectif qui est en jeu. Il y a un débat, discussion, projection, lecture. C'est samedi aussi à la MJC Mon Plaisir dans le 8e à 17h avec la projection du film qui s'appelle Une nouvelle région du monde. Et voilà, on va parler, et ils parleront donc du coup de l'habitat collectif qui change un peu la manière d'habiter, où d'habitude on est plutôt en habitat individuel. Donc voilà, c'est ce samedi. Ça y est, c'est fini. D'ici 5 minutes, normalement, il y a l'émission suivante, La Petite Cuillère. Ils sont pas encore là, j'espère qu'ils vont arriver. Sinon, à 21h, l'émission autour du hip-hop qui s'appelle L'Antichambre. Voilà, rendez-vous la semaine prochaine. Petit message avant de se quitter. Vous pouvez réécouter les émissions sur les blogs de Radio Canu. Vous tapez sur internet blog Radio Canu et vous tombez dessus. Il y a notamment les émissions du Canu Info. Et puis Radio Canu est toujours à la recherche d'argent. Bah oui, oh non, mais comment ça en fait la manche? Non, faut pas dire ça comme ça. Oui, c'est l'histoire de la spéculation immobilière, hein. Vous avez bien, vous toutes et tous conscience que tout augmente, pas tout augmente, nos salaires, tout ça, et la subvention pour Radio Canu, tout ça, ça augmente pas forcément, les cotisations des animateurs et animatrices non plus, heureusement, mais du coup, on a un peu besoin d'argent. L'idée, c'est, comme le loyer a pris plus 20% cette année, ça commence à être difficile pour cette radio indépendante qui est Radio Canu, faite par les animateurs et les animatrices seulement, sans salariés. Du coup, on a l'idée de racheter un local et peut-être de racheter le nôtre. D'ailleurs, c'est la piste actuelle, hein. On cherche, on négocie et c'est en bonne voie. Mais pour l'instant, il nous manque encore pas mal d'argent. Il faut quand même le dire. Au moins la moitié de la somme. Je pense qu'il manque la moitié. Donc la moitié, c'est encore trouvable dans les 4-5 prochains mois, puisque je pense que la campagne va être prolongée, on en discutera en Assemblée Générale, mais ça devrait être ça. Du coup, si vous avez un petit peu d'argent, voire beaucoup d'argent, envoyez vos dons à Radio Canu, boîte postale 1101 69 201 Lyon, CEDEX 01. Grosso modo, si vous envoyez 1000 euros, c'est bien 1000 euros, hein. Ouais, vous envoyez 1000 euros, vous finalement ne donnez que 333 euros. Mais comment ça? Ben oui, parce que vous avez droit à 666 € d'économie d'impôts. Bon, faut payer des impôts aussi en même temps. Mais donc voilà, c'est tout expliqué sur le site internet de Radio Canut dans la rubrique appel à don. Ou soutenir Radio Canut, puisqu'on a droit à des, ça s'appelle un rescrit fiscal. Vous le déclarez aux impôts et ils vous font une baisse d'impôts d'équivalente des 2/3 du don que vous avez fait à la plus rebelle des radios. Voilà, rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye, restez à l'écoute de la plus rebelle des radios.
Assassiné, la justice acquitte. La police.